Bonjour à tous. Alors ce matin, c'est un culte un peu particulier. J'ai pas un texte, j'en ai plusieurs, vous allez voir. Mais parce qu'on m'a demandé de partager ce qu'il y avait sur mon cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire partager ce qu'il y a sur mon cœur? C'est, on va dire, essentiellement trois choses. Et donc c'est un petit peu la PC du message. Trois choses importantes qu'il y a sur mon cœur. Et elles se déclinent de la façon suivante. Ma vision, ma mission, ma passion. D'accord? Et donc, je vais vous parler un petit peu de ces trois aspects. Ma vision, bah, c'est ce que j'aimerais voir accompli dans l'avenir. Martin Luther King aurait dit « My dream is… » Ok. Un autre aurait plutôt dit « Moi, président ». D'accord? Et moi, je dis « Moi, pasteur ». Et je vous donnerai un petit peu quelques éléments sur ce que j'aimerais voir accomplir dans l'avenir. Ma mission, bah, c'est comment je vois mon rôle dans l'Église pour réaliser cette vision. Hein, et donc ça va vous être aussi communiqué. Et enfin, ma passion. Et la passion, c'est ce qui brûle en nous, en fait. Donc ce que le Seigneur a déposé en moi, des dons, des capacités, des fardeaux aussi. Et donc je vais essayer de vous communiquer ces éléments-là. Comme ça, vous saurez qu'on ira dans une certaine direction, finalement. On ne pourra pas aller dans toutes les directions. Mais on va, enfin en tout cas moi, je vais orienter, mais vous allez voir que c'est assez complet quand même. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais? Allez, on commence par le premier point. Et donc, ce que j'aimerais voir accompli dans l'Église. Premier point, c'est que l'EIG soit une Église qui incarne et assume pleinement son identité. Qu'est-ce que ça veut dire? On est quoi, en fait? Ce que nous sommes. En fait, vous le savez ce que vous êtes. Hein, mais, c'est bien de le rappeler. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la thématique de l'année dernière au week-end d'Église. Quelle était la thématique du week-end d'Église? C'était ce que nous sommes. Et j'ai commencé comme ça. Le premier message, c'était sur ce que nous sommes, notre identité. Alors les théologiens de la systématique, hein, ça fait un peu de Larsen, je pense. Hein, ça va pour vous? Alors c'est que pour moi. C'est le retour. En tout cas, les systématiciens ont quand même donné des définitions à l'Église. Est-ce que vous la connaissez? C'est compliqué, hein, de définir c'est quoi l'Église. Et donc, Dieu ne nous a pas laissé comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas lire et pas écrire dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui encore. Et donc, il nous a laissé des métaphores. Les métaphores sont des images parlantes, des images qui portent un sens. Pas tous les sens, mais un certain sens. Et donc, je vais vous les rappeler ce matin, parce que mon désir, c'est que notre Église incarne et assume pleinement son identité. Allez, je vous balance le schéma. Vous vous souvenez de ce schéma? Alors, premier, tout en haut, c'est quoi? L'épouse, la fiancée. Jésus est notre époux. Nous sommes l'épouse de Christ, en fait. Et donc, on est amoureux de Jésus. Okay? On a une relation forte avec Jésus. On est soumis à Jésus. C'est la nature de cette relation. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous sommes. Mais on n'est pas que ça. On est aussi, deuxième à droite, en vert, la vigne, le cep et les sarments. Jésus est le cep, c'est de là d'où vient la sève, et la sève, on va dire que c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que sont appelés à faire les sarments? Alors déjà, pour qu'on puisse porter du fruit, il faut qu'on soit solidement attaché organiquement au cep. On est d'accord? Si on vous coupe avant, le sarment qui est par terre, il sèche et il ne sert à rien. Par contre, il faut qu'il soit solidement attaché au cep et que la sève, donc la sève de l'esprit et le fruit de sa parole, va porter du fruit. D'accord? Donc, ça, c'est une image forte de cette relation organique qu'on doit avoir et du fait qu'on n'a pas le choix, on doit porter du fruit. Une église doit porter du fruit qualitativement et quantitativement. D'accord? Et il va nous émonder pour ça, il va tailler sa vigne pour qu'on porte encore plus de fruits, encore plus de beaux fruits. Ça, c'est le désir de Dieu. Troisième image, un peu plus facile en bleu. Facile. La famille. Nous sommes une famille spirituelle. D'accord? On a tous le même père. On a tous le même Sauveur. On a tous été baptisés de la même manière, etc., etc. Vous voyez que cette famille, elle est unie, que vous le vouliez ou non, à partir du moment où vous intégrez que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, et votre Sauveur personnel, vous êtes intégré automatiquement, sans même que vous le désiriez, dans sa famille. Parce que, du coup, il y en a d'autres qui ont fait ce pas-là, et nous avons le même Père. D'accord ? Et ça, c'est cette notion qu'on doit être unis autour d'un même Seigneur. Et bien sûr, au centre de tout ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous unit parce que c'est lui notre Sauveur. Et on veut se soumettre comme une épouse à son époux et porter du fruit. En même temps, vous voyez, je révise les autres points. Quel est celui-là ? Alors peut-être ceux du fond, c'est un peu plus compliqué à voir. Un mur, un édifice, une construction. Et oui, l'Église n'est pas un tas de pierres. Hein ? C'est pas parce qu'on rassemble des croyants dans une même salle que ça fait une Église. Si vous allez à un concert chrétien, vous aurez beaucoup de chrétiens dans une salle, ça ne fait pas d'eux une Église. On est l'Église universelle, certes, mais ça ne fait pas de nous une Église locale. Une Église locale, eh bien, ce sont des pierres vivantes, donc ce sont les croyants, c'est pour ça qu'il parle d'un mur, d'un édifice, mais qui va se construire, qui est posé sur un fondement, Jésus-Christ et les apôtres, ça c'est la base. Jésus c'est la pierre angulaire et les fondations, ce sont les apôtres, l'enseignement des apôtres, donc le Nouveau Testament, et nous on vient bâtir là-dessus. Et on ne peut pas faire ça n'importe comment, on s'appuie sur les Écritures pour le faire. Et donc c'est nous, c'est l'Église, c'est les pierres vivantes, mais on est scellés avec un ciment très particulier. C'est quoi ce ciment ? L'amour. C'est le lien de la perfection. Le ciment parfait, c'est l'amour qui nous unit, et on l'a chanté encore tout à l'heure, c'est à quoi qu'on reconnaîtra qu'on est tous des disciples, qu'on est une église de Jésus-Christ ? À l'amour que nous avons les uns envers les autres. Et voyez, tous ces textes, ils sont rassemblés dans une image, la construction. Ensuite, celle-ci. C'est quoi cette image ? C'est une colonne. Ça, c'est Paul qui dit ça à Timothée. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. D'accord ? Donc, c'est un endroit où on va enseigner la vérité et on va essayer de vivre dans la vérité. On est un peu la succursale du ciel dans l'Église. On veut essayer de vivre des relations. On ne sera pas parfait, mais on va essayer de vivre des relations vraies et authentiques. Et c'est pour ça que l'Église est l'appui de la vérité. Quand on nous voit, quand on observe les croyants, on devrait voir Christ en fait, parce que c'est lui la vérité. D'accord ? Il incarne totalement la vérité. Alors nous, on est des petites vérités. On ne va pas incarner parfaitement, mais on devrait tendre vers cette direction. Ici, peut-être plus compliqué pour ceux du fond. C'est quoi ? Un bonhomme avec différents membres. Et ça, c'est le corps. L'Église est le corps du Christ, Jésus est la tête. Et chacun a un rôle important. Alors, je ne sais pas si tu savais que tu as eu une hernie, hein, John. Est-ce que tu savais que tu avais quelque chose à ce niveau-là avant ? Tu l'ignorais totalement, jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. Si vous mettez un coup de pied dans la table et que vous cassez le doigt de pied, je peux vous dire qu'il a beau pas servir à grand-chose, votre doigt de pied, ben vous le savez tout de suite. Eh bien, c'est la même chose, c'est que dans le corps de Christ, on a tous notre place. Tous. Il y en a qui ont un rôle visible. Le doigt de pied, il est généralement dans la chaussette, dans la chaussure, il est bien protégé, on ne le voit pas. Et puis, il y a des gens comme moi qui sont devant, là, devant vous. Nous, on a un peu le nez, quoi. C'est comme au milieu de la figure, hein. On ne peut pas le rater. Oui, c'est normal, il parle très souvent, donc on le voit. Mais chacun a un rôle important. Et si moi, je n'avais pas les oreilles et les yeux des autres, eh bien, j'irai pas et je ne serai pas aussi remarqué que ça. Alors, des fois, le nez devient rouge et là, c'est pas bon. Vous voyez ? Quand moi, je suis en colère et c'est les autres qui vont me dire « Regarde-toi dans une glace, hein. T'as vu comment t'es ?» Vous voyez ? Et donc, on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres et c'est l'idée du corps. C'est Dieu qui nous a donné des dons et on doit le mettre au service des autres. Et ce sont des rôles différents. N'essayez pas d'être comme le pasteur ou comme le diacre ou comme si ou telle ou telle personne. Dieu vous a donné des capacités uniques. Elles sont pour édifier le corps. D'accord ? Ici, sixième image. C'est quoi ? C'est un bâtiment ? Est-ce que l'Église est un bâtiment ? Non. C'est un temple. Et c'est quoi l'image du temple dans l'Ancien Testament ? Ou du tabernacle avant le temple ?
c'est l'idée de la présence de Dieu.
Un lieu où Dieu est présent, mais aussi un lieu saint.
Très saint. Quand il y a Dieu qui est là, c'est un lieu saint.
Et donc ça, c'est le côté disciplinaire de l'Église. On est un temple saint. Et donc, un lieu où le péché n'a pas sa place. Dans l'Église, si on voit des péchés, on va le dire et on va les traiter. On veut que les gens... On est un peuple mis à part. Donc un peuple saint, c'est ce que ça veut dire, être saint. On est mis à part justement pour refléter l'image de Dieu et on veut la refléter en communauté. Elle sera imparfaite, mais quand on voit des choses, on veut aider les autres et c'est un ministère, les amis. Et donc, on veut garder cette authenticité, cette sainteté dans le corps. Donc, la vérité et les actes, vous voyez, il y a les deux, l'authenticité. Et c'est vraiment important. Donc ça, c'est la discipline, c'est Matthieu 18. Et enfin, le dernier, qui est le plus évident, qui est une image de l'Ancien Testament, c'est pas très flatteur, à vrai dire. Hein ? Si je vous dis que vous êtes un mouton de Panurge, c'est pas terrible. Mais si on dit qu'on est une brebis du Seigneur, c'est différent. On fait partie d'un troupeau, d'accord ? Et on suit un berger. Et dans ce troupeau-là, Dieu a donné des sous-bergers. Ce que je suis, ce que Ruben est, alors je sais pas, je crois qu'il travaille aujourd'hui, et ce que Serge est, et actuellement John. Les bergers, ce sont ceux qui prennent soin du troupeau, et nous, on est soumis au divin berger, à notre Jésus. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 5. Vous voyez, toutes ces images-là sont ce que nous sommes en tant qu'Église. Et ça, c'est tout ce qui est tourné vers l'intérieur. Mais si on continue d'explorer les textes, on s'aperçoit qu'on n'a pas simplement un rôle à jouer à l'intérieur du corps, mais que si on joue un rôle à l'intérieur du corps, c'est pour mieux le jouer à l'extérieur du corps. Alors, j'ai pas eu le temps de faire la même rosace, mais je vais la faire, c'est promis. Le week-end prochain, vous l'aurez. Ça sera la rosace de ce que nous sommes en Christ, mais orienté vers l'extérieur. Et tous les textes que j'ai cités ici sont au pluriel. C'est toujours nous. Alors, bien sûr, individuellement aussi, mais c'est toujours en tant que corps. Nous sommes quoi ? Nous sommes le sel et la lumière. Le sel, c'est quoi ? Eh bien, il est appelé à saler, à amener cette saveur. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sel. Un petit grain de sel est parfois suffisant sur un petit cookies. Ça fait relever le reste. Mais aussi, parfois, le sel est nécessaire pour garder de la corruption. Si on ne veut pas que quelque chose pourrisse, on le met dans le sel. Vous voyez ? Donc, il y a cet aspect de la justice aussi. Donc, dans la société, on va avoir ce rôle. Alors, pas d'être des justiciers, mais d'apporter la vérité. Et c'est donc ces deux rôles qu'on a. Bien sûr, la lumière. Et là, on doit éclairer ceux qui sont dans l'ombre. Donc, c'est ce que nous sommes. Nous sommes une semence qui se répand. Nous sommes des sarments, des témoins, des ouvriers. Le parfum de Christ. Et qu'est-ce que doit faire un parfum ? Ce matin, vous êtes mis du déo. Hein, peut-être un peu de parfum, d'eau de toilette, je ne sais pas. Qui n'en a pas mis ? Qui a acheté le parfum de Christ ce matin ? Vous devez avoir votre flacon, les amis. En fait, c'est vous le flacon. Vous êtes le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. C'est le caractère de Jésus en nous. C'est le fruit de l'esprit, le HIPPBBFDM, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et on pourrait rajouter humilité, générosité, etc. Bienveillance. Vous voyez ? C'est ça que les gens sont appelés à sentir. C'est ce que nous sommes. Et ce n'est pas pour nous. Parce que nous, entre nous, au bout d'un moment, on est habitué à notre parfum. Hein, et puis parfois, on pourrait se lasser. Mais mettez-vous au milieu d'une écurie, par exemple. On va vous sentir de loin. Je peux vous assurer que si on est tous entre chrétiens, finalement, il y a une odeur de parfum. Parfois, c'est trop. Hein, quand c'est surchargé, eh bien, mettez-vous au milieu d'une étable et on est content de venir à côté de vous. Ici, ça sent bon. Vous voyez ? En fait, c'est ce qu'on est. On est le parfum de Christ. On est une lettre. On doit pouvoir nous lire. Les gens de l'extérieur doivent pouvoir nous lire, nous décrypter. Mais qui c'est celui-là ? Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il fait ça ? Vous voyez, on est une lettre écrite sur nos cœurs. Les ministres d'une nouvelle alliance, des ambassadeurs, c'est la suite. Mais vous voyez, quand on est un ministre, un ambassadeur, on représente quelqu'un. On représente un royaume et nous, on représente un roi. Hein, et le royaume de Dieu, imparfait certes, mais on représente Jésus. Nous sommes ses ambassadeurs en tant que communauté. On est des réconciliateurs. On doit réconcilier les hommes avec Dieu. Ça, c'est notre rôle à nous. Okay ? C'est le rôle de l'Église et individuellement, bien évidemment. Et on est des prêtres sacerdotaux. Et ça, vous l'avez
probablement vu dans l'Apocalypse, nous sommes tous prêtres et sacrificateurs. Ça veut dire que les pasteurs, ils ne sont pas plus prêtres que les autres. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel qui était cher à Calvin. Donc on a tous une place, un rôle à jouer. Le boulanger, hein, tu nous l'as rappelé hier pendant la visite du Calvin Tour, je vous encourage à la refaire, d'ailleurs il va en faire d'autres. Mais vraiment, c'est hyper important de comprendre où on est. Ici, dans la cité de Calvin, justement, où chacun avait une vocation. Et là, et le métier que vous avez, personne ne vous dit « il faut que tu ailles faire autre chose » ou « que tu dois être pasteur absolument ». Non, moi c'est ma vocation, mais ce n'est pas celle de tout le monde, et elle n'est pas moins bonne ou inférieure, d'accord ? C'est la vôtre, c'est celle que le Seigneur vous a donnée, et il faut la garder. Ok ? Donc vous voyez, on est beaucoup de choses en fait. Tout ce que vous voyez là, je vais vous le rappeler régulièrement, pour pas qu'on oublie qui on est. Parce qu'on peut vite tomber dans l'activisme avec des programmes. Parce que tout ça, bien sûr, ça va prendre forme. Hein, c'est pas tous les dimanches, je vais vous dire « Ah, au fait, vous êtes le parfum de Christ, c'est bien. » Mais comment tu l'incarnes, ton parfum ? D'accord ? Et donc ça, c'est le plus important, quelque part. C'est comment on va vivre ce que l'on est. Et donc là, je vais vous demander de m'aider, et il va falloir être créatif. Hein, parce que vous voyez, finalement, on n'a pas d'imposition dans le Nouveau Testament sur la forme. Par contre, le fond, il est super important. La forme, c'est à nous de l'adapter. Et donc chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Et je compte sur vous, que ce soit dans la louange, dans plein d'autres choses. Hein, toute la vie d'église peut s'organiser et donc on va être créatif parce que le plus important c'est ce que l'on est et on va essayer de vivre ce que l'on est. Ça va pour un premier point ? C'est un peu long. Hein ? Alors, ma vision du coup, je l'ai déclinée comme ça. Nous sommes une église missionnelle. Et donc, c'est quoi une église missionnelle ? Eh bien, c'est une église qui est à la fois, enfin une communauté, hein, c'est ça, une église, une communauté à la fois centripète et centrifuge. Et c'est ce que je viens de décrire. Ça, c'est le mot missionnel, c'est un terme qui est apparu il y a une dizaine d'années. C'est un terme théologique. Ce sont des théologiens qui sont arrivés à la conclusion que l'église, elle n'était pas simplement tournée vers elle. Vous voyez ce qu'elle est sur la première partie ? Mais il y a cette deuxième partie qu'ils ne font pas négliger. Donc centripète, hein, c'est ce qui va attirer vers le centre. Hein, quand vous faites, vous avez déjà fait du tourniquet quand vous étiez petit. Il y en a pas loin dans la ville, là vous pourrez aller refaire l'expérience. Plus vous êtes proche du centre, et plus vous êtes projeté à l'intérieur du centre. Vous avez remarqué ? Vous ne pouvez pas sortir en fait. Si ça tourne suffisamment vite, vous allez être plaqué mais au milieu du truc. Par contre, si vous arrivez à un certain moment à vous décaler un petit peu, et si ça tourne assez vite, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez intérêt à vous tenir, sinon ciao, hein ! Ça vous éjecte. Eh bien, il y a ce double mouvement dans une église équilibrée, une église missionnelle, c'est qu'elle est à la fois attrayante, c'est-à-dire qu'on vit des rapports, des relations fortes les uns avec les autres, et ça donne envie. Ça, c'est le côté centripète. Une église qui va prendre soin des plus faibles, qui va accompagner les gens qui sont blessés par la vie, même parfois par les chrétiens. On va accompagner, donc prendre soin, mais aussi former à l'intérieur de ce corps, équiper les croyants pour que eux puissent aller dans le monde. Donc vous voyez, il y a le côté centripète, on prend soin, on va nourrir, on va équiper, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour mieux vous renvoyer dehors. Bien sûr, c'est pour avoir cette incarnation de l'évangile dans la société, sel et lumière, parfum, etc. Oui, c'est ce que nous sommes. Donc on ne peut pas se limiter simplement à l'intérieur, parce que l'intérieur doit être suffisamment fort pour pouvoir aller à l'extérieur. C'est bon, vous avez compris maintenant ce que c'est qu'une église ? Hein ? Elle doit être à la fois tournée vers l'intérieur et aussi vers l'extérieur. C'est essayer de garder cet équilibre. Et je peux vous assurer que c'est compliqué de garder cet équilibre, parce qu'il y a des saisons où on va être un peu centré sur l'intérieur, mais c'est pour mieux aller vers l'extérieur, vous voyez ? Et donc c'est pour ça qu'on lance toutes sortes de formations, mais c'est pour mieux ensuite aller vers l'extérieur, parce que notre cœur est aussi comme celui de Jésus. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun humain périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et si c'est le cœur de Dieu, ça devrait être notre cœur à nous. Là, vous voyez, je parle sans mes notes. Hein. C'est vraiment avec mon cœur. Ma mission. Alors, qu'est-ce que j'entends par mission ? Ben, c'est mon rôle dans l'Église pour réaliser cette vision. Ok ? Donc il faut que j'avance, parce que j'ai quand même écrit des choses. Alors j'ai dit,
c'est ce que j'ai écrit en tout cas. Mon rôle, ce n'est pas d'être le papa poule dans l'église. D'accord ? Parce qu'on a un père pour ça. Je ne suis pas le papa poule dans l'église, ou en tout cas de tous les membres de l'église. On ne me paye pas pour être le papa poule, mais on me paye pour servir l'église, pour être à vos côtés, pour vous permettre de jouer votre rôle de témoin et de serviteur dans le monde et aussi dans l'église. Comment ? Eh bien, en mettant vos dons au service des autres. 1 Pierre 4, verset 10, nous dit « Puisque chacun a reçu au moins un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Dieu nous a donné des capacités, des dons, et c'est unique à vous. Eh bien, l'idée, c'est que nous, on puisse les observer, les anciens. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez regardé, mais souvent, je discute avec les uns et les autres. Cette semaine, je l'ai fait. J'avais une jeune chrétienne qui est venue à la maison. On la gardait parce que ses parents ne pouvaient pas la garder. Donc, elle est venue à la maison. Puis, je discute avec elle. Et puis, elle me dit « Ouais, moi, j'aimerais bien être bijoutière. » Alors, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai testé son don. Je lui dis « Ah, bah écoute, tu sais, j'ai des petites capsules de café à faire. Moi, je ne bois pas de café, mais c'est pour mes invités. Et tu sais, ça demande de la minutie et tout. Donc, est-ce que tu voudrais faire... Et donc, elle a commencé à faire ces petites capsules, mais ça demande quand même un travail de dextérité. Et alors, je lui dis, si tu les avais fait pour toi, est-ce que tu aurais été heureuse ? Bah ouais, parce que j'aurais pu boire le café. Mais comme tu l'as fait pour les autres, est-ce que tu es aussi heureuse ? Ah bah ouais, c'est encore mieux. Et là, elle vient de découvrir un principe fondamental sur lequel je vais insister longuement, et pas maintenant, mais tout au long de ma vie, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mes amis, si vous n'avez pas encore compris ce concept, ce principe biblique fondamental, eh bien, je vais vous le rappeler régulièrement. L'église, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un restaurant, on ne vient pas pour consommer, on vient pour adorer et pour servir. On a été sauvés par grâce, les amis. 100% grâce. Tout vient de Dieu. Même la foi nous est donnée pour croire. On n'est même pas capable de le faire nous-mêmes. Mais Dieu vient nous donner à la fois un cadeau incroyable, il fait mourir son fils sur une croix, il prend la colère de Dieu sur lui pour pouvoir nous offrir sa vie à lui, sa vie éternelle. Mais pour ça, il perd sa propre vie. Il perd sa vie, il nous l'offre. Mais on n'est pas sauvé on est sauvé par la grâce, mais pour servir. Éphésiens 2, car nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est la suite. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Personne ne mérite le salut dans cette église. Pas plus moi que vous. Mais Dieu nous l'offre. Et il ne nous l'offre pas pour rien. Mais il nous dit juste après verset 10, « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous voyez ? Et donc ça, c'est vraiment le but. On est sauvé par la grâce, mais pour servir. Alors, trois textes, je disais. Un dans les évangiles, un dans le livre des actes et un dans les épîtres. Vous voyez, je suis aussi équilibré, j'essaye de garder. Matthieu 28, vous connaissez tous ce texte. Et ça, c'est un peu la mission générale, c'est pas simplement la mienne. Bien sûr que c'est la mienne, si c'est la vôtre, c'est aussi la mienne. Mais celle-là, elle est vraiment pour tous les croyants. Vous connaissez ce texte ? En allant faites des disciples parmi toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, vous ne le voyez pas, enfin, ici j'ai essayé de mettre une traduction qui tient compte des temps. Il y a des participes passés, il y a des impératifs. En grec, il y a un seul mot à l'impératif. Et il est dérivé du substantif disciple. C'est un verbe et c'est le seul qui a l'impératif. Il n'est pas traduit en français parce qu'on n'a pas le mot équivalent. Mais c'est le verbe discipuler. Faire des disciples, vous voyez ? Façonner des disciples. C'est ça ce que le texte dit. Tout ce qu'il y a autour, ce sont des participes passés. C'est pour ça que dans certaines versions, on pourrait le traduire ainsi aussi à l'impératif. Mais l'accent, il est vraiment sur le fait de faire des disciples. Ça, c'est le cœur de la mission, de ma mission, de votre mission aussi. On doit être en cours
de faire des disciples, de façonner des disciples. Alors, il y a bien sûr ici deux aspects que vous connaissez, le baptême et la Sainte Cène. Donc, je suis désolé pour ceux avec qui je me réjouissais du 3 octobre, c'était ça, on avait fixé cette date, eh bien on n'aura pas la salle et on voudrait vraiment avoir cette grande salle pour faire les baptêmes. Et donc on a regardé la date juste après où on a la grande salle, c'est le 31 octobre. D'accord ? Eh bien le 31 octobre, on va obéir à ce commandement, les baptisants. Donc si vous êtes un disciple de Jésus pas encore baptisé, si vous avez rencontré Jésus-Christ, personnellement vous avez une relation forte avec lui, alors... Eh bien, c'est le 31 octobre, c'est le jour de l'anniversaire de Cheyenne. Je l'ai appris hier. Elle est née le jour où il a posé ses 95 thèses, où Luther a posé ses 95 thèses, pas ici à Genève, mais à Wittenberg, en Allemagne. D'accord ? Alors, j'ai aussi appris que c'était le jour de Halloween. Mais bon, ça, c'est autre chose. On préfère l'autre. Hein. Donc, maintenant, vous saurez que c'est l'anniversaire de Cheyenne, vous ne pouvez pas rater son anniversaire. Donc, un des commandements physique qu'on doit faire, c'est baptiser, et la suite. Alors, vous savez que ce verset est un fake, personne ne l'a vu. Si ceux qui ont suivi le séminaire Eisenschuh cet été, Serge, je sais que tu l'as vu, Céline aussi, Richard aussi l'a vu, c'est un fake ce verset. Alors regardez vos bibles les amis, parce que là vous voyez, je peux vous raconter n'importe quoi, vous ne l'avez pas vu, c'est un fake. Regardez le verset 20, je vous donne une indice. Un indice au verset 20. Prenez vos Bibles, tous, et vous n'aurez pas la même version que moi, mais je veux que vous retrouviez vraiment l'erreur ou l'omission. Je vous ai encore aidé là. Est-ce qu'il y aurait une bonne âme qui voudrait m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît ? Il fait chaud ici. Merci. Je vais être nominatif. C'est Herman, vas-y. Ils se regardent tous. Alors, qui a trouvé l'erreur ? Levez la main. Nabil.
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Ah, et enseignez-leur à observer. Vous n'avez pas entendu, moi j'ai entendu. Et enseignez-leur à observer. Eh oui, vous voyez, le verbe, vous avez peut-être gardé dans vos bibles. Mais le sens, c'est observer, appliquer. Le but de notre mission, c'est de façonner des disciples à l'image de Christ. Pas d'évangéliser. C'est en allant. C'est de là où on tire l'évangélisation. En allant, d'accord ? Mais le focus, c'est sur le fait de faire des disciples. Et, en les enseignant, on ne peut pas faire autre chose, mais le but de l'enseignement, c'est l'obéissance. Et vous voyez, l'accent, il n'est pas sur l'enseignement, il est sur l'obéissance. Il vaudrait mieux avoir un enseignement, une étude biblique et 10 leçons de comment je pourrais le mettre en pratique, plutôt que 10 études bibliques et une forme d'application. Et c'est pour ça qu'on va relancer les groupes de maison, et que chaque groupe de maison, l'objectif, ça va être de reprendre le message du dimanche, d'approfondir la théologie si nécessaire, si ce n'était pas clair, ça peut arriver. Et surtout, viser l'application. Comment, en tant que communauté, en tant que groupe de maison, en tant que frères et sœurs, on peut s'aider à mettre en pratique cette parole. Parfois, ça sera vers l'intérieur, parfois vers l'extérieur, parfois ce sera neutre, parfois c'est vers le cœur. Mais voyez, l'idée, c'est comment je peux le mettre en pratique. Parce que c'est le cœur de notre mission. Bon, maintenant, à chaque fois que je vais citer un verset, vous allez prendre vos bibles. Hein. T'aurais pas oublié un mot ? Voyez, je veux que vous ayez ce réflexe. Super, merci Serge. Deux verres, wow, ça c'est la classe. Il s'est dit, il y en a pour 2 heures. Un verre par heure. Deuxième texte, qui est pour moi cher et important, c'est un texte que l'apôtre Paul va donner, il va convoquer les anciens de l'église d'Éphèse, et c'est un des tout derniers discours de l'apôtre Paul. Oui, il est à la fin de sa vie, il le sait, il va monter à Rome pour y rester en prison et y mourir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Quand on est à la fin de sa vie, on va donner les choses importantes. Et c'est ce qui se passe ici, regardez ce qu'il dit aux anciens, donc les évêques et les anciens, ce sont les responsables de la communauté d'Éphèse, d'accord ? Ou des communautés d'Éphèse. Et ils étaient plusieurs. Donc il les convoque tous.
Venez, et voilà ce que j'ai à vous dire. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos, surveillant. Quelqu'un qui veille sur, n'est pas des gendarmes, hein. On veille sur, pour le bien de vos âmes, à qui on aura des comptes à rendre. Alors, il vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Ici, j'ai le cœur de ma mission en tant que pasteur. Et c'est la chose suivante. Déjà, la première chose, c'est que je dois prendre garde à moi-même. L'apôtre Paul à Timothée, quand il s'adresse à Timothée, il mentionne plusieurs personnes qui sont parties à la dérive. Pourtant, c'était des anciens collaborateurs. Dans Philippiens, on l'a vu aussi, il y avait Évodie et Saint-Tiche, qui étaient des femmes de Dieu, dont le nom était inscrit dans le livre des cieux, et qui se crêpaient le chignon. Et là, eh ben, elles perdaient toute leur efficacité. Parce que quand on est en conflit, on ne représente plus l'unité du corps. Et donc, du coup, on perd tout impact, finalement, autour de nous, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église. Et donc, prendre garde à nous-mêmes, prendre garde au péché qui nous dévie, qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement. Et là, on a besoin les uns des autres, les amis, à veiller les uns sur les autres, à ne pas être orgueilleux, à garder l'humilité, etc. Donc, prendre soin de nous-mêmes. Et ça, c'est les anciens. Donc, nous, on a des formations, on lit des bouquins, on essaye de se maintenir, on confesse nos péchés, etc. C'est important qu'on le fasse. Donc, c'est prendre garde à nous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel... Donc le troupeau, c'est l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est l'Église que le Seigneur nous a donnée. Moi, je ne suis pas appelé à prendre soin de tous les gens de la ville de Genève. Certains ont cette vision que l'Église, elle englobe tout le monde. Ben non, moi j'ai un troupeau défini, ce sont les membres de l'Église déjà, ceux qui ont le désir de s'aimer les uns les autres, de construire ensemble. Et alors, donc ça se matérialise par, on ira plus loin là-dessus, mais ça se matérialise par un désir de devenir membre de l'Église, par exemple, de se faire baptiser. Et ça, c'est un souhait de vouloir faire partie de cette communauté. Et donc, du coup, de là, moi, je dois prendre soin d'abord de ce troupeau-là. Okay ? Il est défini, mon troupeau. C'est pas les chrétiens de tout Genève. À la Servette, ils ont d'autres bergers. Ils prennent soin de leurs brebis. Amen, alléluia. D'accord ? Parfois, je serai amené peut-être à intervenir dans leur assemblée. Mais en tout cas, ici, dans ce cadre-là précis, je suis amené à prendre soin des membres de cette communauté. Okay ? Et cette Église de Dieu, ici, elle a de la valeur. Vous avez vu comment il l'a acquise ? Est-ce que vous avez déjà acquis quelque chose par votre propre sang ? Est-ce que vous êtes déjà mort pour quelque chose ? Bon, si c'était le cas, vous seriez ressuscité, parce que vous êtes dans la salle. Hein. Mais personne n'est mort pour quelqu'un d'autre. Mais Jésus, si. Et moi, j'ai cette image-là. C'est que pour moi, Jésus, c'est un peu... Enfin, Jésus. L'Église, c'est un peu le doudou de Dieu. Vous voyez ici, j'ai 2 doudous. D'accord ? Le doudou premier, officiel, celui de ma fille. Donc, Licia, vous voyez, ça, c'est doudou copie. Parents intelligents. Ce que des parents, les doudous qu'on perd, c'est dramatique, parce que nos enfants ne dorment pas. Seulement, on a fait le test, doudou qui pue, qui est tout usé, à qui manque une oreille, eh bien, elle n'est pas dupe, c'est celui-là qu'elle aime. Ma fille, vous lui donnez celui-là, bon, elle va le prendre parce qu'elle n'a rien d'autre, c'est celui-là qu'elle aime. Mais un doudou de substitution, ça ne marche pas. Eh bien, l'Église, c'est un petit peu ça. C'est que, avec le temps, beaucoup ont essayé de la détruire, ont arraché une oreille, ont usé ses coutures, l'ont sali, l'ont souillé, ça sent pas bon un doudou, l'ont mâchouillé avec leur salive. Aujourd'hui encore, l'Église est persécutée dans le monde. Elle l'a été depuis 2000 ans, lacérée par les coups de fouet, attaquée,
parfois brûlés. Pensez à Néron qui utilisait les chrétiens comme torches vivantes. Aux lions qui ont dévoré nos frères et nos sœurs. Blandine, je cite une personne, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Des gens qui ont été persécutés, humiliés, qu'on a jetés en prison et qu'on jette encore en prison. Mes amis, c'est ça l'Église de Dieu. Vous savez quoi ? En apparence, elle est moins parfaite. Cette Église-là est moins parfaite que celle-là. Mais Jésus aime et c'est celle-là qu'il préfère. Il ne veut pas une doublure de l'Église. Il veut la véritable Église, l'authentique Église, qui parfois sent pas bon, mais de temps en temps, ce doudou-là va faire un petit tour à la machine à laver. Parce qu'on se dit, bon, c'est bien gentil, mais quand même, ça traîne un peu partout. Et donc, c'est ce que fait Jésus avec nous, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie. Comment ? C'est la suite du texte. C'est par sa parole. Regardez, la parole de sa grâce, elle a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. On a tout dans le doudou là. Et c'est la parole de Dieu qui fait ça. Et c'est pour ça qu'on vous enseignera la parole de Dieu tout le temps. Parce que c'est elle qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage à tous ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire à tous les croyants. Troisième et dernier texte que j'aimerais juste vous partager rapidement sur mon rôle, c'est celui-là, c'est dans Éphésiens 4. Et ça va m'amener au troisième point naturellement. C'est lui qui a fait, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Vous voyez, j'ai souligné en jaune ce qui me concerne. Et il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Vous avez ici le cœur de ma mission. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Ça, c'est le but, hein, la finalité. Et le moyen, il est là. Dieu utilise des hommes, des pasteurs, des évangélistes, des pasteurs et enseignants. Vous voyez ? Moi, je pense que j'ai les deux, en fait. Je suis à la fois un évangéliste et à la fois un enseignant. Alors après, pasteur et enseignant, le mot, il est tellement galvaudé. Mettez-y ce que vous voulez derrière, mais on enseigne la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait. Et un évangéliste aussi enseigne la parole de Dieu, mais pas seulement. Il aide les autres à appliquer cette parole, à la comprendre et à l'appliquer. Et c'est le but, regardez, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes. Quelqu'un qui rend apte quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui équipe, qui forme, qui façonne, vous voyez ? Donc mon rôle, c'est un rôle de coach. Un peu ce que tu fais, Eunice, dans ton travail. Elle va coacher des gens, les aider à développer leur propre potentiel, leur propre don, tout ce que Dieu a mis en eux. Donc vous voyez que l'Église, elle n'est pas centrée sur le pasteur. Si elle est centrée sur le pasteur, c'est pour mieux former les autres, équiper les autres. Et c'est là où j'arrive à mon troisième et dernier point, la passion. Parce que finalement, si Dieu m'a donné en tant qu'homme des dons, ben moi, mon but, c'est de les faire fructifier. Et j'en ai identifié quelques-uns. Alors, c'est sans prétention, hein. Attention. C'est ce que j'ai entendu qu'on a dit de moi, souvent. Et puis aussi, les lieux où j'exerce avec joie. D'accord ? Quelle est la première passion, à votre avis, qui brûle en moi et qui devrait brûler en chacun de vous ? L'ultime passion. Je pourrais dire la passion avec un grand L et un grand A. Et avec un grand P. Plutôt avec un grand J. Mes amis, on peut avoir plein de passions. Si on n'a pas celle-là, on a tout faux. On peut être un passionné d'évangélisation. Si on n'est pas passionné par Jésus, qu'est-ce que tu vas communiquer ? En fait, que tu es passionné par un ministère, par des choses à faire. Hein ? Et non, la passion ultime, c'est Jésus. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous communiquer. C'est ma passion de Christ, de Jésus, parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il a changé ma vie, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est le seul qui peut sauver les hommes, qui peut les arracher de leurs ténèbres et de les propulser. C'est le seul qui peut changer la vie en profondeur et d'une manière durable. Et ça, je suis tellement convaincu de ça que c'est lui ma passion. Tout le reste, c'est presque anecdotique.
D'accord ? Mais ça devrait être la passion de tous les gens dans cette église. Et si on vous pose la question au milieu de la nuit, par qui t'es passionné ? Tu diras pas le vélo, le bricolage, la couture, les boutiques. Jésus. C'est le premier mot qui devrait sortir de ta bouche. De quoi es-tu passionné ? Moi, mais par Jésus. Vous voyez ? C'est ça le cœur de ma passion. Et j'espère, après le reste, finalement, c'est presque anecdotique. La prédication et l'enseignement, oui, ça c'est un truc que j'aime faire. Et comment ça s'est matérialisé d'entrée de jeu ? Ben, comme avec John, on a la même passion. Eh bien, on fait des études bibliques, on prêche régulièrement, et puis on a lancé même une formation à la prédication. Mais quand on forme des gens à la prédication, à votre avis, c'est pour continuer à prêcher tous les dimanches ? C'est quoi le but ? Ben, c'est de se multiplier. Et c'est le but aussi de l'Église. Multiplier des disciples, multiplier des leaders, multiplier des églises. On pourrait même dire que c'est notre leitmotiv. Mais la passion, c'est Christ. Et ensuite, on va essayer de la décliner. Donc la mienne, elle est là. Dieu m'a donné certaines capacités. Et donc je veux les transmettre avec passion. Et j'espère, là, ceux qui ont assisté, est-ce que vous confirmez qu'on est passionné avec John ? J'espère. En tout cas, on veut l'être. Le discipulat et l'accompagnement, vous avez vu que le discipulat c'est assez large. Hein, faire un disciple, ça dépend à quel niveau. Ça peut être le béaba, hein, apprendre à lire la Bible, apprendre à prier, apprendre à obéir à la parole de Dieu, etc. Il y a des disciplines de la vie chrétienne importantes, mais ça peut aussi du discipulat avec des gens qui sont déjà avancés dans la foi, les équiper pour qu'ils aillent plus loin, vous voyez, les accompagner. Et donc on le fait aussi avec mon épouse, pas seulement tout seul, mais avec mon épouse, on a à cœur d'aider les familles et les futures familles. Et donc on fait des formations pour l'accompagnement au mariage, pour un mariage durable. C'est ça le but, hein, c'est qu'on reste marié. Et on voit tellement de tristesse, on voit des frustrations, des difficultés, parfois insurmontables, qu'on se dit, mais si on avait été là au début, si on avait pu simplement aider ces gens. On nous amène souvent, honnêtement, en tant que pasteur, des omelettes et on nous demande de reconstituer des œufs avec. C'est compliqué. C'est plus facile dans l'autre sens. Mais quand la vie est déjà brisée, ben, tu te débrouilles avec ton omelette, quoi, en gros. Et c'est difficile de séparer le blanc du jaune une fois qu'elle est faite. Vous voyez ? Donc, avant qu'il y ait l'omelette, venez, si vous êtes des bons petits œufs, alors on va essayer de faire en sorte que ces œufs puissent donner des beaux œufs au plat. Hein, c'est un peu ça, c'est une image, hein. N'y voyez pas trop de détails. Passionné par les perdus et l'évangélisation, bah, si vous avez lu mon livre, vous savez que c'est un des domaines que j'ai étudié. J'ai fait un master là, en missiologie et implantation d'église, donc c'était vraiment pour faire fructifier aussi ce livre. Il est d'ailleurs sorti pendant mes études, et donc c'est un livre qui nous aide à réfléchir sur le rôle de l'église, le rôle des croyants et notre rôle individuel. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Mais du coup, quand on écrit un livre, il est un peu de partout en France, même en francophonie, au Québec. Et donc maintenant on m'appelle un peu de partout aussi en France. Donc il va falloir accepter que parfois je m'en aille. D'accord ? Alors, je ne vais pas m'en aller définitivement, mais parfois pendant un week-end ou en semaine, où je vais donner des formations. Et vous avez vu que le texte qu'on a lu tout à l'heure, il a donné à l'Église, avec un grand E, des enseignants, des docteurs, des évangélistes, et c'est pour former l'Église. Mais pourquoi se limiter au local, alors qu'aujourd'hui on a des moyens technologiques qui nous permettent d'enseigner dans le monde entier. Et depuis cette semaine, si vous regardez, vous êtes abonné à Évangile 21, et bien tous nos messages sont maintenant relayés sur ce site, et donc c'est un réseau francophone international. Donc ça, je trouve ça génial quelque part, parce que notre petite Église de Genève peut rayonner dans toute le monde entier. Elle le fait déjà. Hein. On a des messages de John à plus de 35 000 vues. Je crois que c'est 36 000 le top record d'un de ces messages. Vous vous rendez compte, une église de 36 000, c'est plus que le stade de la Servette. C'est énorme. Et pourtant, bah, c'est grâce à Dieu qu'on peut le faire. Ensuite, l'accueil et l'hospitalité. J'espère que vous l'avez observé. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est qu'on a raté quelque chose. Mais notre objectif, et on se donne les moyens de le faire, c'est d'accueillir. On a vu tous les bienfaits que ça peut faire, non seulement aux serviteurs de Dieu de passage, et on est à Genève, je peux vous dire que cette année, il y a un paquet de pasteurs et leur épouse qui ont défilé chez nous, et puis aussi aux membres de l'Église. On veut vraiment vous accueillir créer une sorte de foyer dans lequel vous puissiez vous sentir comme à la maison. D'ailleurs, on a prêté notre maison à quelques-uns, et c'est le but, c'est que vous vous sentiez... Alors bien sûr, si on n'est pas là, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un don d'accueil. Non, bien sûr, c'est quand on est là, mais parfois aussi on l'utilise pour ça. Voilà mes amis, je vous ai ouvert mon cœur ce matin. J'espère que vous n'êtes pas choqués. Si vous êtes, mais pas du tout en phase avec ce que j'ai dit, ben moi je vous invite à aller dans une autre église. Si c'est juste pour faire du tourisme, si c'est juste pour être là le dimanche, écouter des messages, allez ailleurs. Franchement, c'est pas notre objectif ici, c'est pas le mien. Et je pense que si Dieu vous a mis ici, c'est pour une raison. C'est pas pour que je fasse tout à votre place, mais c'est pour que je puisse vous équiper afin que vous puissiez développer votre potentiel, vos dons, tout ce que le Seigneur a mis en vous. Yes ! J'ai vu Eliane qui a fait ça. On va prier, et puis David, tu viendras conclure. C'est tout un programme, les amis, hein ?